Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation des sacs plastiques fins de moins de 50 micromètres d'épaisseur à usage unique et non compostable et destinés à l'emballage des fruits et légumes est interdite. Une alternative semble très prometteuse, la production de bioplastique. Depuis plusieurs années, les travaux de recherche de Jean-Luc Audic, membre de l'équipe de chimie et ingénierie des procédés à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, portent sur l'élaboration de nouveaux matériaux biosourcés et biodégradables à partir de coproduits issus de l'industrie agroalimentaire.
Le Labomatique,
l'émission scientifique.
J'ai vu que vous avez travaillé sur les polymères. Alors, qu'est-ce qu'un polymère ?
Alors, un polymère, dans le langage courant, la plupart des gens appellent ça un plastique. Hein. Même si, moi, je serais plutôt tenté de dire que le polymère, c'est le constituant principal des plastiques. Le plastique, c'est plutôt le matériau abouti, le matériau final que les gens connaissent, qu'ils manipulent, qui est plutôt un polymère avec des additifs, qui contient des additifs, c'est-à-dire des plastifiants, des stabilisants UV, des stabilisants thermiques, des colorants. Il se trouve que le matériau fini que vous avez entre les mains, justement, a des propriétés qui sont accrues pour l'utilisation désirée, et ces propriétés sont apportées justement aussi en partie par les additifs. Donc le polymère, c'est le constituant majoritaire, mais il y a des additifs, et c'est souvent d'ailleurs ces additifs qui posent problème lorsqu'ils migrent par exemple du plastique vers le média environnant, c'est-à-dire vers l'eau, vers l'aliment, lorsque c'est un emballage. Donc parfois ça peut poser des problèmes, je pense notamment au cas des plastifiants.
Qu'est-ce que c'est un PHA ?
Donc un polymère, je vous disais, c'est un plastique en quelque sorte. Il s'agit d'un enchaînement de motifs identiques en général, qui sont répétés plusieurs fois, plusieurs centaines de fois, plusieurs milliers de fois. Hein. Donc les polymères, on appelle ça aussi des macromolécules, puisque ce sont des molécules qui sont très très grosses, justement compte tenu de cette répétition de motifs. Alors on peut avoir des molécules qui vont avoir des masses vraiment très très élevées. Hein. Elles sont même tellement grosses qu'on pourrait on peut les voir à l'œil nu. Et donc on peut faire l'analogie, si vous voulez, entre un polymère et un collier de perles. Chaque perle, en fait, est l'unité constitutive et qu'on va pouvoir enfiler comme ça le long d'un collier et faire des colliers plus ou moins longs, hein, qui vont avoir des propriétés variables selon le type de perle qu'on va utiliser. Alors, ça, c'est la définition générale qu'on pourrait donner pour des polymères. Les PHA dont vous me parlez, c'est ce qu'on appelle des polyhydroxyalkanoates. Ce sont des polyesters alors que nous, on obtient par voie de fermentation, par voie bactérienne. Ce sont donc des polyesters bactériens. Et ces polyesters ont le double avantage d'être à la fois biosourcés, c'est-à-dire issus de matières premières renouvelables, hein, je reviendrai là-dessus si vous voulez plus tard, et à la fois biodégradables ou compostables, c'est-à-dire que par rapport à la fin de vie, ce sont des matériaux qui, dans les conditions d'un compost, eh bien, font se dégrader assez rapidement. En quelques mois, votre matériau va retourner en fait à un état complètement dégradé, si vous voulez, dans votre compost.
Donc du coup, non polluant globalement.
Voilà, non polluant. Même si on développe des matériaux à partir de PHA, donc des plastiques plus aboutis, évidemment, on va aller vers des additifs, par exemple, qui seront eux aussi non impactants pour l'environnement. Hein, on va essayer d'utiliser des additifs verts. On a travaillé, par exemple, sur la plastification des PHA avec des huiles époxydées. Ça fonctionne relativement bien et ça permet de s'affranchir de l'utilisation d'autres plastifiants qui sont plus embêtants, tels que les phtalates ou les adipates.
Les phtalates sont des composés chimiques dérivés de l'acide phtalique. Ils sont couramment utilisés comme plastifiants des matières plastiques, notamment des pleurichlorures de vinyle, autrement appelés PVC. On les retrouve ainsi dans les films plastiques, emballages, revêtements de sol, rideaux de douche, tuyaux et câbles, matériaux de construction, peinture ou vernis, mais aussi dans certains dispositifs médicaux. Avant que la réglementation n'encadre leurs usages, de nombreux jouets et objets de puériculture en contenaient également. Les phtalates sont aussi incorporés comme fixateurs dans de nombreux produits cosmétiques, comme les vernis à ongles, la laque pour les cheveux et le parfum.
C'est pour créer des plastiques à partir de bactéries. Du coup, comment s'est déroulée cette recherche? En tout cas, quelle est son origine et comment on en est venu jusqu'à ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors, ce sont des bactéries qui, au départ, en fait, on a travaillé avec un prestataire qui disposait d'une banque, on va dire, de bactéries, elles-mêmes issues de recherches de l'Ifremer. Mais toutes ces bactéries récoltées de ci, de là, le long des océans bretons, n'avaient pas nécessairement été screenées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément regardé quels étaient leurs potentiels.
Mais as-tu pensé aux bactéries ?
T'as tort, tu ne vois pas que maman discute.
Donc parmi cette banque de bactéries, on a fait des recherches pour savoir quelles étaient les bactéries susceptibles de produire ces plastiques d'intérêt, hein, ces polyhydroxyalkanoates. Donc nos premières années de recherche, ça a consisté à isoler parmi différents lots des bactéries qui pouvaient justement, dans certaines conditions, fabriquer des plastiques, des PHA en l'occurrence. Et on a pu donc identifier quelques souches qui permettaient d'obtenir des plastiques. Et puis, ça a mis plusieurs mois et plusieurs années pour déterminer quel était le meilleur couple bactéries-substrat qui permettait d'avoir les meilleurs rendements de production et la meilleure qualité, on va dire, de PHA. Donc, on a travaillé au départ là-dessus. Hein. Donc, une fois isolée la bactérie, on a travaillé avec des industriels susceptibles de nous fournir des substrats qui permettait à la bactérie de bien se développer. Donc on a travaillé avec Séché Environnement, avec Tribala, Sojason, qui nous ont fourni des effluents, des coproduits, des déchets, si vous voulez, hein, toutes sortes de matériaux qui n'étaient pas, enfin de matières premières qui n'étaient pas forcément valorisées hein, chez eux. Et à partir donc, de ces différents lots, on a identifié les lots qui permettaient le mieux aux bactéries de se développer. Alors ça a pris pas mal de temps aussi hein, de mettre au point ce couple bactéries-substrat et aussi des variantes puisqu'il faut bien sûr pouvoir encaisser on va dire, les variabilités de composition de la matière première que va nous fournir les industriels. Par exemple, Séché Environnement n'est peut-être pas capable de fournir sur une année entière des lots de déchets de qualité équivalente. Hein, donc il faut pouvoir encaisser quelques variations. Il y a aussi des impondérables. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de certains substrats pour assurer la survie des bactéries et puis leur développement. Donc tout ça, on l'a défini et on a défini donc, des conditions idéales de développement de la bactérie. Une fois que ça s'est fait, on a travaillé sur les conditions de stress, puisque c'est dans des conditions de stress que la bactérie va se mettre à fabriquer le PHA. C'est-à-dire que naturellement, elle va simplement se développer, se reproduire, on va nous travailler sur les conditions qui vont permettre à cette bactérie de produire ce plastique. Alors ces conditions, ce sont des conditions de stress alimentaire, c'est-à-dire que un petit peu comme nous, lorsqu'on va changer de régime alimentaire, eh bien, on va stocker de l'énergie sous forme de graisse, hein, si on mange trop riche par exemple, eh bien, de façon un peu semblable. La bactérie, là, dans des conditions de stress particulier, c'est-à-dire que là, on va supprimer la source d'azote, eh bien, dans ces conditions, la bactérie se met à stocker de l'énergie sous forme de granules de PHA, de polyhydroxyalkanoate, donc de plastique. Et ce sont ces granules qui nous intéressent. Donc on a travaillé sur l'établissement de ces conditions de stress alimentaire et puis vérifier comment optimiser cette étape de production de plastique. Dans un premier temps, on avait un protocole qui prenait, on va dire, près d'une semaine hein, pour parvenir à produire du PHA. Et dorénavant, on est revenu là maintenant sur... on a réduit cette période de production à 3 jours avec une étape où la bactérie va se développer hein, pour arriver à un palier. Et puis ensuite, on applique le stress et ensuite donc la récolte des granules de PHA. En 3 jours. Hein. Donc on met la bactérie en culture, elle se développe, on la stresse et on récolte le PHA à l'issue des 3 jours de production. Donc sur la base de ces déchets, ça va permettre le développement, donc c'est ce qu'on appelle la biomasse, hein, on va créer de la biomasse à partir de déchets qui étaient jusque-là pas ou peu valorisés. Hein, donc ça rajoute évidemment de la valeur aux déchets. Et l'intérêt, si vous voulez, de projets de ce type, alors ce sont des projets justement qui, je dis des projets puisque c'est un projet qui date maintenant, qui est en cours depuis près de 7-8 ans, si vous voulez. Hein. Donc nous avons eu plusieurs financements. Nous avons été notamment aidés par la région Bretagne lors de précédents projets. Sur celui-ci, nous sommes aidés par l'ADEME. C'est un projet qui a été monté donc, avec CBB Cap Biotech pour le développement des biotechnologies en Bretagne. Donc on a monté un dossier et on a un financement de l'ADEME. Nous sommes avec des partenaires industriels pour mettre en place donc, une filière, on va dire, locale. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une économie circulaire, où on va intégrer donc, des déchets qui vont être dans la région, aussi produits au niveau de la région. Là, en l'occurrence, Tribala Sojasson, c'est Noyal-sur-Vilaine. On va intégrer donc, ces déchets localement, et c'est l'idée c'est de développer aussi localement la filière donc, de biotechno pour arriver à partir de ces déchets à produire des plastiques aussi à l'échelle locale. On travaille avec un prestataire qui s'appelle Polymaris qui va travailler avec nos bactéries pour valoriser ces substrats et fabriquer nos PHA dans des fermenteurs à une échelle, on va dire, plus importante que l'échelle que l'on a au sein du laboratoire. C'est un petit peu là le verrou pour l'instant aussi, c'est qu'on produit à une petite échelle. Pour baisser les coûts de production, il faut passer à des échelles beaucoup plus grandes, c'est-à-dire plusieurs mètres cubes, voire plusieurs dizaines de mètres cubes.
Ah oui, quand même.
Ces polymères, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut les transformer en plastique plutôt élastique, plutôt dur, plutôt rigide, plutôt souple?
Alors, en termes d'application finale, les propriétés des plastiques en général sont ajustées, comme je vous disais tout à l'heure, par l'ajout d'additifs comme des plastifiants. Donc effectivement, on va pouvoir trouver toute une gamme d'applications pour ces PHA. Il faut savoir qu'il en existe déjà des commerciaux. Hein, certains sont produits par, notamment, il y a des PHA chinois avec lesquels on a travaillé. Le principal avantage des PHA, c'est que ce sont des polymères qui sont barrières au gaz, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le passage de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Ça va permettre notamment d'accroître la durée de vie des aliments lorsqu'ils sont conservés dans des emballages plastiques de ce type. Donc ça, c'est vraiment un avantage à mettre en avant qui va permettre de justifier le surcoût, on va dire, de production d'un plastique de ce type par rapport au plastique pétrosourcé traditionnel. Hein, je vous rappelle que la plupart des plastiques qui nous entourent et qui sont encore actuellement utilisés dans l'emballage sont des plastiques pétrosourcés, c'est-à-dire des plastiques qui sont fabriqués à partir de produits pétroliers, dérivés du pétrole, que ce soit le polyéthylène, le polypropylène, enfin les plus communs. Donc on est toujours dépendant du marché de la matière première pétrolière pour ces plastiques-là. Et c'est vrai que ces nouveaux plastiques ont un intérêt de par leur fin de vie, comme je vous disais, donc ils sont biodégradables, plus généralement je dirais plutôt compostables, mais de par leur origine, c'est-à-dire le fait qu'ils soient biosourcés, eh bien ils sont issus de matières premières renouvelables, puisque nos bactéries se nourrissent de déchets de l'industrie agroalimentaire, mais ce sont des déchets organiques, si vous voulez, des déchets verts. Et donc on va pouvoir valoriser ces déchets à l'échelle locale, et donc on a bien évidemment, là encore, un matériau qui sera biosourcé et issu de matières premières renouvelables. Et c'est tout là l'intérêt aussi, c'est-à-dire c'est de supplanter les matières premières fossiles comme le pétrole ou le gaz.
Vous, personnellement, comment vous les imaginez, je sais pas, dans quelques années, ces polymères?
Alors, c'est vrai que là, l'actualité veut qu'on parle beaucoup des sacs plastiques, qui doivent être remplacés par des matériaux biodégradables s'ils font moins de 50 microns. C'est peut-être pas l'application rêvée pour les PHA, puisque comme je vous disais, ils sont un peu plus chers à produire, et puis ils ont des propriétés intrinsèques qui sont autrement plus intéressantes que celles des polyéthylènes, par exemple, utilisées actuellement dans la fabrication des sacs plastiques. Donc non, je vois vraiment l'utilisation de ce type de plastique dans des niches, probablement des matériaux barrières justement pour qui vont pouvoir préserver les aliments. L'utilisation, oui, peut-être un petit peu plus noble. On a fait la synthèse, on a fabriqué récemment des gobelets qui peuvent être utilisés typiquement lors de festivals, par exemple, pour des gobelets qui seraient consignés, qu'on utiliserait et puis qu'on ramène en consigne, pour justifier, enfin, ce qui permettrait d'amortir un petit peu le surcoût, parce que c'est un peu plus cher que les plastiques traditionnels. On a fait des couverts, on a fait des assiettes, ce genre de choses qui permettent donc d'envisager évidemment, après avoir en fait, pour des utilisations à courte durée de vie, c'est-à-dire typiquement effectivement de la vaisselle jetable ou des choses qui sont en contact pendant des durées très courtes avec des aliments et puis qu'on va jeter assez rapidement. Donc les emballages aussi, évidemment.
Ah bon, alors si c'est écologique, je comprends mieux.
Ce serait donc là un peu la limite du produit, entre guillemets. Enfin, c'est pour ça que j'utilise aussi des guillemets pour le mot limite. Ce serait la durée de vie, en fait, d'utilisation. On ne pourrait pas, par exemple, les retrouver dans des voitures ou ce genre de choses.
Alors, il est clair que les plastiques biodégradables, et j'ai utilisé souvent le terme de compostable, justement parce que le terme de compostable est probablement plus clair. Il permet de faire comprendre aux gens que ces plastiques-là se dégradent dans les conditions d'un compost. C'est-à-dire, ce sont des conditions un petit peu particulières de température, d'hygrométrie. Il faut la présence aussi de certaines espèces bactériennes ou de micro-organismes qui permettent la dégradation du plastique. Donc, en dehors de ces conditions-là, ce plastique-là a une durée de vie quand même qui est tout à fait conséquente. Donc, on peut envisager des applications durables. Et si on souhaite mettre en avant uniquement l'aspect biosourcé et laisser de côté l'aspect biodégradable et compostable, c'est tout à fait envisageable. À ce moment-là, il suffit d'envisager la modification chimique du pHa ou l'ajout aussi d'additifs qui vont permettre d'accroître la durée de vie du plastique. C'est vrai que de plus en plus apparaissent sur le marché des matériaux qui sont identiques aux matériaux connus pétrosourcés, mais qui sont, eux, biosourcés. C'est-à-dire qu'un des marchés qui va se développer dans les années à venir, selon moi, pas seulement selon moi, mais selon aussi les analyses qu'on peut trouver de ci, de là, c'est plutôt des substitutifs aux matériaux issus du pétrole, mais qui seraient biosourcés. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'exemple du bouchon de la bouteille de Volvic ou de la bouteille de Volvic qui est marquée en partie biosourcée ou issue du végétal. En fait, un des constituants du plastique est issu d'une filière végétale. Et la com est beaucoup faite là-dessus, justement. Et il est clair que, pour l'instant, les marchés qui vont s'ouvrir, je pense, ça va vraiment aller dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de se substituer à la matière première issue du pétrole avec des produits naturels, enfin d'origine naturelle, renouvelables, plutôt végétales, c'est vrai. Alors on va parler de protéines, de matières grasses, de polysaccharides, ce qu'on appelle aussi la bioraffinerie, c'est-à-dire essayer de refaire des molécules élémentaires à partir de polysaccharides, de bois, de cellulose, de polymères qui existent en quantité importante dans la nature, et essayer de reformer, on va dire, des syntons, c'est-à-dire des constituants principaux, on va dire, de la chimie d'hier, mais qui seraient non plus issus de la chimie lourde ou du pétrole, mais plutôt du naturel. Et c'est vrai qu'on développe de plus en plus des matériaux qui vont être ainsi biosourcés, mais durables. C'est-à-dire que l'application, enfin l'aspect fin de vie n'est pas forcément mis en avant. Pourquoi ? Parce que la filière du recyclage est tout aussi intéressante. Par exemple, j'aime citer l'exemple du polyéthylène terephthalate, qui est en fait le polymère qui permet de fabriquer les bouteilles de soda que vous achetez en grande surface ou n'importe où. Ces bouteilles de différentes marques sont toutes identiques et elles sont constituées donc de ce polyéthylène terephthalate qui est un plastique dont la filière de recyclage est parfaitement au point. Et bien justement, vu qu'elle fonctionne très bien, on va dire que la boucle est bouclée. Hein. On produit le polyéthylène terephthalate, il sert à contenir donc les boissons. Il a les propriétés requises, c'est-à-dire que c'est un polymère qui est transparent, on aime bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il a des propriétés barrières au gaz, heureusement, c'est-à-dire qu'il va conserver la pression de gaz, en l'occurrence c'est du CO2, à l'intérieur de la bouteille. Donc il préserve bien aussi le contenu des attaques extérieures. Donc en ça, il remplit, il est vraiment idéal pour contenir les sodas gazeux. Donc finalement, c'est pas nécessaire forcément de mettre au point un nouveau matériau qui risque de ne pas avoir des propriétés équivalentes. Je dirais qu'en revanche, ce qui est important, c'est de conserver cette filière de recyclage qui est déjà parfaitement mise en place. C'est-à-dire que tout le monde jette ces plastiques-là dans la poubelle. D'ailleurs, ils constituent une majorité des plastiques qu'on trouve dans les poubelles. On les met systématiquement dans la poubelle jaune. Et le recyclage du PET via ces poubelles est parfaitement identifié, clair, et permet de recycler le PET dans l'application initiale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir refaire des bouteilles de PET en intégrant une partie du PET recyclé dans du PET propre. Donc ça, c'est une filière qui est parfaitement vertueuse et on va pouvoir réintégrer du recyclé dans la filière et ça fonctionne très bien. Donc il est clair que pour un matériau qui va devoir être au contact d'un liquide, il vaut mieux avoir un matériau qui soit durable. Hein. Et puis la durée de vie quand même d'une bouteille d'eau, c'est plusieurs mois, plusieurs années je dirais. Hein. Donc c'est vrai que là-dessus, je trouve que le PET c'est encore ce qu'il y a de mieux, probablement.
Pas biodégradable, Folletti. Donc anti-écologique.
Donc Blue Eco PHA, ça c'est le projet actuel qui fait suite au projet Biocombat et PHA PAC, hein, qui étaient deux projets qui ont été aussi autrement financés hein, par la région Bretagne et par la région Bretagne et région Pays de Loire aussi, Pays de la Loire. Sinon, évidemment, je travaille sur d'autres projets. Enfin, on travaille à plusieurs déjà hein, sur Blue Eco PHA. Donc, j'ai cité CBB Cap Biotech, des industriels, hein, Europlastic, nous avons Séché, le groupe Séché Environnement, Sojasun, Tribala, Elixence aussi, qui est un compounder, en prestataire Polymaris, par exemple. Évidemment, d'autres partenaires académiques. Je pense bien évidemment à l'Université de Bretagne Sud et l'Institut de Recherche du Puy-de-Dôme, l'IRDL, Stéphane Bruzeau qui intervient donc sur ce projet aussi avec nous. J'espère n'oublier personne. Enfin, ce sont des projets évidemment qui intègrent pas mal de partenaires compte tenu de leur taille, quoi. Mais je travaille aussi sur d'autres projets, par exemple sur la valorisation des huiles végétales, donc ça peut être les huiles de tournesol, les huiles de soja, on a travaillé avec de l'huile de brocoli, de l'huile de graines de brocoli, toujours dans les aspects matériaux. Hein. Et on a développé donc ici avec l'équipe COS, chimie organique supramoléculaire, nouvellement qui s'appelle dorénavant l'équipe Corinthe, avec Loïc Lemièvre. Principalement, on a travaillé sur la fabrication de matériaux de type polyester et des polyuréthanes aussi, qu'on appelle des NIPU, pour non-isocyanate polyuréthane. Donc ces matériaux ont été développés à partir d'huile recyclée. Donc on récupère de l'huile, par exemple, de l'huile de friture, et on l'utilise pour fabriquer des plastiques 100% d'origine naturelle à partir de ces huiles. Et on arrive à avoir des matériaux souples, plus ou moins avec un certain pouvoir amortissant, qui ont des propriétés techniques tout à fait intéressantes, notamment je pense aux polyuréthanes qui vont avoir des allongements de l'ordre de 100 jusqu'à 150, 200%, voire 300% d'allongement. Des matériaux très élastiques, à mémoire de forme, simplement à partir d'huile. Donc ça, on a mis différentes formulations au point là-dessus. Il y a un brevet qui est en cours de dépôt. En ce qui concerne les brevets, on a aussi breveté, donc ça c'était le projet Lactafilm. Nous avons eu un financement aussi, financement région là-dessus, et des fonds FEDER pour le développement donc d'un matériau, un film d'emballage à partir de protéines laitières. Hein, donc là, on a développé une formulation typique qui permet de fabriquer des films étirables à partir de protéines de lait. Ça a été breveté. Un autre brevet qui me tient à cœur, celui-ci, c'est vrai parce que ça a été développé avec Légende d'ailleurs, un partenaire qui avait une idée très sympa, c'est que c'est un importateur hein, de différentes choses venant d'Inde, et il avait observé que là-bas les gens mangeaient à même des feuilles qui étaient tressées entre elles, des feuilles d'un arbre, des feuilles de salle. Qui ressemble un petit peu au châtaignier. Ces feuilles sont tressées entre elles sous forme de grandes galettes, et ces galettes étaient pressées avec un petit peu d'amidon de riz qui jouait le rôle de colle, et ils mangeaient directement dedans. Et cette vaisselle végétale, on peut appeler ça de la vaisselle végétale, était en voie de disparition là-bas, puisque les gens lui préféraient paradoxalement le plastique qu'on utilise chez nous, c'est-à-dire le polypropylène, les barquettes, des choses comme ça. Ils trouvaient ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus joli. Alors que nous, on aurait plutôt la démarche inverse maintenant ici, c'est plutôt essayer de s'affranchir de nos plastiques, de l'utilisation de nos plastiques traditionnels pour les remplacer par justement des matériaux issus de matériaux première renouvelable. Et il est venu avec ses feuilles de salle tressées, il m'a dit est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver une colle qui pourrait nous aller ou quelque chose qui fonctionnerait, qui donne un aspect un peu plus fini en produit, parce que je pense pas qu'on puisse le commercialiser. La colle à base d'amidon de riz vieillit assez mal. Le taux d'humidité breton n'est pas le même que celui qu'il pouvait avoir en Inde dans la région d'utilisation de ces produits-là. Donc ça vieillissait pas forcément très bien. Et l'idée a été de faire un matériau multicouche, en fait, pressé de feuilles de salle entre des feuilles donc de plastique biodégradable, des films de plastique plus exactement, et des films évidemment aptes au contact alimentaire, et donc qui garantissaient l'utilisation dans le domaine de l'alimentation. Et donc on a mis au point de la vaisselle végétale apte au contact alimentaire, ça a été breveté, et on peut fabriquer donc des bols, des assiettes, des gobelets, à peu près toutes les formes envisageables pour s'alimenter. Alors c'est des applications évidemment limitées dans le temps, puisque là on a une durée de vie qui est relativement courte, mais typiquement c'est le genre de vaisselle qu'on pourrait utiliser dans les festivals lorsqu'on sert des barquettes de frites aux gens, ou des aliments qui sont à consommer dans les minutes qui suivent.
T'as rien contre les couverts en plastique ?
Non, j'aime bien. Ça fait vacances.
Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et moi, j'ai découvert en plastique.
Si vous utilisez une barquette de polypropylène, et ben la barquette va être souillée, puisque vous allez mettre de la mayonnaise, du ketchup, le gras, de l'huile. Donc au niveau recyclage, c'est pas simple à mettre en place. On la jette dans les 10 minutes d'utilisation. Là, avec une vaisselle végétale, c'est une vaisselle qui est totalement compostable, biodégradable. Vous allez pouvoir donc la mettre dans votre compost, et elle va se dégrader en quelques jours, simplement. Donc en plus l'aspect est vraiment sympa, puisque on retrouve, le film étant transparent, on retrouve l'aspect veineux, d'une feuille, des feuilles d'arbres, donc on voit toutes les veines dans les feuilles, et c'est un matériau qui est très joli à voir. Donc c'est un aspect assez engageant qui parle de lui-même, il n'y a pas besoin de communiquer autour pour dire que c'est bio-sourcé, ça se voit tout de suite, et l'aspect compostable, biodégradable, coule de source, quoi. Donc c'est un matériau qui est assez sympa, et c'est vrai qu'on serait à la recherche de quelqu'un qui voudrait nous accompagner là-dessus pour développer ces produits-là et les mettre à la vente, parce que le projet est quasiment abouti, si vous voulez. On a démontré la faisabilité, on a des prototypes déjà, donc il faudrait passer à l'échelle supérieure. Nous avons avec nous la SAT Bretagne Valorisation qui nous aide là-dessus pour justement trouver, à contacter si jamais quelqu'un est intéressé, se rapprocher de la SAT, SADT, pour justement essayer de voir avec eux comment on pourrait développer ce genre de produit, mais avec qui, pour moi, ont vraiment un avenir.
les perspectives et développements semblent illimités. Une alternative viable qui s'inscrit dans le développement durable. Je remercie Jean-Luc Audic pour ses explications et l'École nationale supérieure de chimie de Rennes de nous avoir ouvert leurs portes. Le Labomatique est également disponible en réécoute sur le www.c-lab.fr. À bientôt.
Le Labomatique,
l'émission scientifique